Les petites histoires font les grandes histoires. Claude Perronnet nous raconte nos histoires de vie, les racines de la région, avec Petites et Grandes Histoires de la Basse Marche.
Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle chronique des Petites et Grandes Histoires de la Basse Marche. Ce sera notre 268e émission et notre 177e chronique. Comme nous l'avons fait pour Bellac, nous allons consacrer deux émissions à une visite historique de la cité du Dorat. Et nous le ferons à partir de l'ouvrage de l'historien Michael Toury, que les auditeurs de RMJ connaissent bien. Je le remercie de nous avoir donné l'autorisation de citer de larges extraits de son ouvrage « Visite historique du Dorat et de l'ancienne commune de Voulon ».
La Basse Marche a plein d'histoires à raconter. Écoutez-les avec Petites et Grandes Histoires de la Basse Marche.
Voici quelques extraits de l'introduction de Michael Toury. L'histoire du Dorat se comprend à travers sa belle collégiale, ses remparts, son jardin public et ses paysages pittoresques. Le long des rues et des chemins de campagne, des détails architecturaux retiennent notre attention. Nous allons faire un grand plongeon dans l'histoire de cette ville de manière ludique. Le Dorat est sûrement construit le long d'une nécropole routière. Nous nous tiendrons à la charte de fondation de 970, à travers laquelle Boson, ancêtre des comtes de la Marche, fonde une communauté de chanoines séculiers, autrement dit un chapitre canonial à un carrefour routier fréquenté par les marchands de sel et de fer. Le Dorat est un lieu stratégique, parmi d'autres, du nouveau territoire que se taille Boson aux marches frontières du Limousin, du Poitou et du Berry. Des étangs et marécages entourent les côtés est, sud et ouest. Le dernier côté est le moins défendu naturellement. C'est certainement la raison pour laquelle le comte de la Marche y détient une motte castrale artificielle. Autour, il possède aussi sa basse-cour composée de ses familiers. L'ensemble est traversé du sud au nord par un itinéraire routier ancien. Finalement, c'est un schéma classique de l'organisation des castrums de la région. Nous pensons à Bellac, à Aubusson ou même à Chalusset. Du Xe au XIVe siècle, les comtes de la Marche sont en conflit avec le chapitre canonial qui connaît une période prospère. Les chanoines ont le soutien du pouvoir royal. Les relations changent lorsque le comte de la Marche passe à la couronne en tant qu'apanage. L'ennemi est alors anglais. Le roi soutient financièrement les fortifications de la ville au XVe siècle. Ce pouvoir royal s'accroît à la suite des guerres de religion. Le château du Dorat est détruit et le siège royal de la Sénéchaussée est installé au cœur de la ville à côté de la maison de l'abbé. La bourgeoisie, dont la fortune repose sur l'agriculture et l'élevage d'animaux, en particulier les bovins, fournit à la fois des hommes de justice et des hommes d'église. Ces familles construisent de belles maisons, mais la Révolution marque un temps d'arrêt. La Sénéchaussée et le chapitre canonial sont supprimés. La ville du Dorat connaît malheureusement un déclassement politique sans précédent. Les détenteurs des grosses fortunes foncières réagissent en soutenant des fondations religieuses. Trois couvents importants et un petit séminaire font alors du Dorat la petite Rome du Limousin. C'est aussi à travers l'histoire des ostensions que l'histoire du Dorat peut se percevoir. Israël et Théobald, deux saints chanoines des premiers temps du chapitre Saint-Pierre, génèrent une dévotion interne à l'institution canoniale. Mais il faut attendre la contre-réforme catholique pour que l'évêque de Limoges, assisté d'Antoine de Fénelon, marquis de Magnac, mette en place les ostensions septennales des reliques en 1659. La cérémonie devient plus importante à partir du début du XVIIIe siècle. Ce sont des parcours historiques et touristiques de la ville et de sa campagne qui vous sont proposés. Histoire générale et petits détails se mêlent à tous les coins de rue et à tous les bouts de chemin. L'objectif est de sortir l'odorat du Dorat et de le replacer dans un contexte plus vaste et dans une histoire renouvelée.
Petites et grandes histoires de la basse marche.
Nous allons commencer notre balade par la rue Saint-Louis et la place de la Collégiale. Cette rue, écrit Michael Toury, doit son nom à l'ancienne chapelle Saint-Louis qui protégeait spirituellement la porte de la ville du même nom. Cette porte permettait l'accès au cloître des chanoines, un espace où s'exerçait une immunité judiciaire, autour de la Collégiale, entourée d'une clôture en bois, puis, à compter de 1543, par un mur en pierre. Cette porte fut détruite en 1828. La Collégiale, alors c'est cette magnifique église qui abritait un collège de chanoines de l'an 1000 jusqu'à la Révolution française. Nous raconterons dans une autre émission l'histoire de cette collégiale. Autrefois, la place de la Collégiale possédait de nombreuses maisons qui longeaient la rue Saint-Louis jusqu'à la rue de l'Église. Autour de la Collégiale, au niveau de l'actuel monument aux morts, se trouvait un petit cimetière. Et de là, un chemin permettait d'accéder au grand cimetière de Lausanne. Parmi les maisons de cette place, on remarque la maison de Jacques de Saint-Laurent, écuyer et seigneur de Saint-Laurent-sur-Gorre, avec une porte à deux pilastres. Le grand logis ou maison Robert. On trouve là deux grandes maisons de style classique, reconstruites ou remaniées au XIXe siècle sur l'emplacement du grand logis de la famille Barton de Montbas du XVe et XVIe siècle, dont il ne reste qu'une petite baie. Cette grande maison fut achetée par Jacques Laguzet et Louis Ricoux, qui y fondèrent une importante grainetterie de renommée internationale. Louis Ricoux fut maire du Dorat de 1947 à 1959. Signalons encore sur cette place la maison Vacherie de la Beige, avec une cheminée qui porte un blason où figure une vache, et aussi l'emplacement de l'ancienne fontaine des chanoines du Dorat. Nous nous rendons maintenant rue de la Psalette. Écoutons Michael Toury. Percée dans la première moitié du XIXe siècle, la rue de la Psalette porte le nom de l'école de chant des chanoines. Elle était fermée par une cour autour de laquelle s'organisaient les bâtiments canoniaux. À droite, presque en face du couvent des Sœurs Marie-Joseph, cette maison fut pendant longtemps celle du chevessier, sorte de sacristain comptable de la Collégiale. À mi-distance de la rue, une ancienne tour de fortification appelée Tour Bizot fut détruite vers 1830. Elle dominait l'ancienne Maison Dieu. Dans cette rue se trouve donc le couvent des Sœurs Marie-Joseph et de la Miséricorde, visiteuses des prisons qui s'installèrent au Dorat en 1846. L'établissement du Dorat est devenu la maison mère de cette communauté et la maison de retraite des religieuses. Nous poursuivons vers la place des Tilleuls, autrefois appelée place publique écrit Michaël Toury, elle fut réaménagée en terrasse ombragée de tilleuls vers 1830. Elle formait un espace où se tenaient les foires et marchés devant l'une des grandes portes de la collégiale. Elle s'ouvrait également sur les anciennes boutiques de la maison de l'abbé. Elle porte aujourd'hui le nom de Bertrand Clisson, qui fut maire du Dorat de 1959 à 1995. On y trouve quelques belles maisons, dont la maison de chez la Gaignerie avec une fenêtre style Renaissance. Notre troisième station, ce sera rue des Fours et rue Saint-Michel. La rue des Fours fait référence aux fours à pain des chanoines qui en avaient le monopole. La rue Saint-Michel, du nom de la chapelle Saint-Michel et de l'ancienne porte qui y était associée. Convertie en tribunal au XVIIe siècle, elle était associée à une prison située juste en face. D'ailleurs, écrit l'auteur, cette rue porta longtemps le nom de rue de la prison. De nombreux notables y avaient pignon sur rue, comme Jean Chalard, lieutenant particulier de la Sénéchaussée au XVIIe siècle, c'est un logis avec une porte d'entrée monumentale, ou Claude de la Pouge, lieutenant général de la Sénéchaussée au XVIe siècle, c'est un bâtiment avec une échauguette d'angle et une porte monumentale, mais aussi la maison de la famille de Larry qui occupait un ancien logis associé à une tour de défense. On y trouve encore l'ancien Carmel. Ce couvent des Carmélites fut construit sur les hauteurs du Dorat entre 1856 et 1880. Mais encore la chapelle du Temple, occupée par des franciscains, qui assuraient la fabrication des chasubles et qui encadraient une maison de retraite pour prêtres. Ce couvent a fermé ses portes en 1950.
Petites et grandes histoires de la basse marche.
Quatrième station. Nous voici rue Courbe, appelée ainsi depuis la fin du XIXe siècle. Au Moyen-Âge, on l'appelait la rue Bergère ou la rue qui descend à la porte Bergère. On y trouve la maison des Abamas, une ancienne maison de marchands achetée par François Audebert, écuyer. Il la transforme en véritable château à l'entrée de la ville, associé à l'une des tours de la porte Bergère. La porte Bergère, la seule porte fortifiée de la région, encore visible en bon état. Il semble que sa mention en tant que porte ne date que de 1539. Située sur une butte adoucie en 1870, la porte a un accès difficile depuis l'ancienne chaussée de l'étang. Elle doit probablement son début de construction au vaste chantier entrepris par l'abbé Guillaume de l'Ermite et le concours financier du comte de la Marche vers 1430. Saint Machicoulis surmonté d'une accolade et un ancien assommoir datent de la période de la fin du XVe siècle. Les tours, semi-circulaires, ont des bases avec des archères canonnières plus tardives. La porte était fermée d'une herse en fer et de deux porteaux de bois. Un plan d'eau alimenté par une source longeait la partie nord-ouest des remparts. À partir du XVIIIe siècle, la terrasse sud-ouest est avancée et recouvre une partie de la base de la tour. En 1767, les tours sont arasées à mi-hauteur et la herse enlevée. Au XIXe siècle, devenues privées, les tours sont aménagées suivant les goûts de l'époque. La tour nord possède une petite maison couverte en ardoise avec un balcon ayant vue sur la campagne. La tour sud-est est surhaussée avec un toit en pente et une ouverture très néo-gothique. En 1984, la tour nord retrouve une hauteur similaire à la tour sud. Dans cette rue courbe, on remarque encore l'auberge Notre-Dame, avec un toit à la mansarde. Notons que la cave servait aussi d'écurie pour mettre les chevaux des voyageurs. La maison Piton, avec une porte en accolade, et la maison Rivaux, qui est une ancienne maison à colombage. Voici maintenant place de la Fontaine. Ancienne place du marché, écrit Michael Toury, la plupart des habitants de cette place possédaient des bancs et étals pour faire leur commerce. Elle devint place de la Fontaine au XIXe siècle, puis place de la Libération en 1945 et enfin place Charles de Gaulle en 1970. Les façades des maisons datent pour la plupart du XIXe siècle. On y trouve le collège, installé dans l'ancien couvent bénédictin, on y comptait 22 religieuses au XVIIe siècle. On y trouve encore le cinéma, la tour Gevarda, ancienne tour de fortification rasée à mi-hauteur en 1767. Elle se situe dans les jardins dits Santillana del Mar, la ville espagnole jumelée avec le Dora. La maison Bapte, de style haussmannien, la maison Tétou. Jacques Tétou du Bois de Lavaux, qui fut médecin au XVIIIe siècle, c'est une maison au fronton triangulaire portant la date de 1759. Et bien sûr, la Fontaine, dont la conception et le financement furent assurés par les élèves du petit séminaire et par Joseph Laperrière, pharmacien et bienfaiteur de la cité, dont nous reparlerons. Nous voici maintenant dans la rue Chameau. C'est notre sixième arrêt. Elle doit son nom à Raymond Chameau, un jeune résistant assassiné par les Allemands et la milice à la Croix du Curé dans la commune de Magnac-Laval. Ses parents avaient une boutique dans cette rue. Auparavant, le nom était rue des Quatre Coins en raison du carrefour. La partie la plus basse et la plus étroite portait le nom de rue de l'Abbaye. Elle débouchait d'ailleurs dans la cour de la maison de l'abbé. Alors vous trouverez dans l'ouvrage de Michael Toury des précisions sur les logis de cette rue, le logis des Saint-Savin au XVe siècle. Galon de Saint-Savin, capitaine du château, occupe cette maison appartenant à des chanoines qu'il avait expropriés. La maison Baron, qui rappelle les grands magasins parisiens de la fin du XIXe siècle. La maison de l'abbaye. Entre cour et jardin, c'est une des plus remarquables maisons du Dora. C'est le cœur de l'histoire du Dora. C'est un espace délimité par la première enceinte médiévale qui s'organise autour de l'aula, autour de la cour, des maisons et des tours des familles de l'abbé, de la grange, des fours, des pressoirs, des boutiques, de la place avec son puits, des bâtiments de la recette et bien sûr de la prison.
Petites et grandes histoires de la basse marche.
Notre station 7 est particulièrement riche avec la rue de l'Église, la rue des Écoliers, la rue du Puy-Châtenier et la rue Rouge. La rue de l'Église se situe certainement, écrit Michael Toury, sur l'emplacement d'un ancien fossé. La rue des Écoliers permettait aux enfants de rejoindre l'école tenue par le chapitre à l'emplacement de l'ancienne mairie, d'où son nom. Mais elle s'appela aussi la rue du Pressoir, car elle débouchait sur une grange appartenant à l'abbé Grange, qui abritait un pressoir. La rue du Puits Chatonnier tient son nom d'un puits où l'on noyait les chatons, les chatounets. Ce puits fut reconstruit à plusieurs reprises à l'emplacement d'un carrefour ou kerwex mentionné dès le XVe siècle. L'auteur nous cite plusieurs édifices anciens, plusieurs maisons anciennes. L'ancien logis de Julien de Lâche-Barrière avec une pierre en réemploi avec un blason orné de feuillages. L'hôtel particulier de la famille Bouchol avec une porte à pilastres surmontée de pot-à-feu. Celle de l'avocat et procureur de la Sénéchaussée Jean Sandemois avec une porte surmontée d'un fronton orné d'un blason. La maison de Petiot de Taillac. Quant à la rue Rouge, les façades comportent d'anciennes ouvertures médiévales. On y trouve encore la maison de la famille Fauconnier, juge sénéchal du Dorat au XVIe siècle, et de Jacques Fauconnier, médecin et poète. Station 8, rue Roulotte et place Saint-Jean. Nous sommes au nord de l'ancienne ville. Et, écrit Michael Toury, la rue Roulotte correspond au tracé d'anciens fossés. Au XVIIIe siècle, les granges de cette rue servaient de boucherie. En 1810, elle porte le nom de rue Tortre. La place Saint-Jean, avant la construction des fortifications du XVe siècle, cette place était une rue conduisant de l'église au château. On y trouve la maison de chez le moine, ou de chez le moine, avec une porte d'entrée surmontée d'un blason aux armes des Juniens. À la fin du XVIIIe siècle, elle fut la résidence de Pierre de Chamboran, écuyer et seigneur de Drou. On y trouve aussi la demeure du choriste, car à la veille de la Révolution, elle appartenait à Hubert Fanchon, le dernier choriste du chapitre de Saint-Pierre du Dorat.
Petites et grandes histoires de la basse marche.
Station 9, la rue des Prêtres et la rue Robert-Laperrière au nord-ouest de la vieille ville qui nous conduisent à la place du marché. La rue des Prêtres, écrit Michael Toury, autrefois cette rue portait le nom de la rue Fromentot ou Fromental, en référence peut-être aux céréales, le froment, commercialisé sur la place du marché toute proche. Elle doit son nom de rue des Prêtres aux religieux du petit séminaire qui y avait une chapelle au XIXe siècle. Concernant la rue Laperrière, l'auteur écrit, autrement dit rue de la Poste. Elle est percée au XIXe siècle pour permettre l'accès à la place du marché depuis la route de Montmorillon qui se trouve au nord. Elle porte le nom de Joseph Robert Laperrière, pharmacien et bienfaiteur du Dorat en 1872. On y trouve la Poste, construite en 1928, la Tour du Guet, à savoir celle qui se situait à un angle des fortifications et qui servait de guet. Une autre tour fut construite au début du XIXe siècle pour servir de réservoir d'eau pour le petit séminaire. station 10, la rue des Vaudieux. Michael Toury nous explique que c'est une rue très ancienne, située entre l'antique cimetière de Lausanne et les fossés de la ville. Elle est connue aussi sous le simple nom de rue des Vaux, des Vallées, autrement dit, la rue qui descend. Elle est prolongée par la rue Pissarat, en référence à l'eau de pluie qui pissait sur l'ancien canal et se déversait dans les fossés de la ville. Cette rue comprend de nombreuses maisons et hôtels. La maison des Jevardas, qui possède une tour dite Tour du Moine. Elle fut au XVIIe siècle propriété de Jacques Robert, le frère du lieutenant général Pierre Robert. La maison du chanoine de la Gane, avec un jardin qui donnait sur l'ancien cimetière. Le logis de la Circadie ou de la Circadière, elle fut la propriété de Benoît Les Terres Beauvais, un député girondin qui fut guillotiné en 1793. L'hôtel Vigneault, ancienne demeure du chirurgien Jean Mazerou, elle devint une école privée catholique en 1908. La maison de chez Prenard et la vicairie Saint-Étienne qui fut peut-être une chapelle protectrice spirituelle de la Porte Bouvière. Station 11. Alors nous allons suivre la rue de Lausanne et la rue des Bouchers, qui sont deux rues parallèles qui nous conduisent de la rue des Vaudieux à la place de la Collégiale. Michael Toury nous explique que la rue de Lausanne correspond au chemin central de l'ancien cimetière. Hosanne se réfère à l'Hosanna biblique. Des fouilles ont mis à jour des tombes du 8e siècle, le Dora étant à l'origine une nécropole routière. A noter que le jardin d'une maison abritait la chapelle de Saint-Antoine de Padoue, construite vers 1580 par Jacques Brujas, juge Odorat, en expiation de son crime envers Claude de la Pouge, lieutenant général de la Sénéchaussée, crime commis en 1578. L'édifice servira ensuite de sépulture pour les familles Robert de Villemartin et Laurent Descombes. Dans cette rue, on trouve des granges, assez nombreuses, converties en maisons. La rue des Bouchers, appelée aussi rue Mouvière sous l'Ancien Régime, puis rue de Vendée pendant la Révolution, elle retrouve son nom de rue des Bouchers assez tardivement. La rue Porte des Bouchers est le pendant de la rue Porte Bergère. C'est par là qu'entraient les bœufs afin d'être tués pour la boucherie. Le commerce de viande est l'une des principales richesses de la ville. Au bout de la rue, vers la Collégiale, une petite place portait le nom significatif de Place des Bancs des Bouchers, un peu comme à Limoges. Michael Toury précise que la Porte Bouvière, reconstruite en pierre de taille en 1548, comprenait deux grosses tours carrées massives fermées par deux portes en bois. À l'avant, un pont-levis avec un balancier surmontait le fossé. Une tour de garde détruite avant 1661 précédait le pont-levis. La Porte Bouvière fut détruite entre 1810 et 1828. Dans le développement, l'auteur nous parle de l'hôtel des Estourneaux de Pinateau, un mousquetaire du roi qui fut maire du Dora au XVIIIe siècle, et de l'auberge de la Corne aux Cerfs du XVIe siècle. Il nous précise qu'au début du XXe siècle, cet édifice abrita la caserne de gendarmerie. Voilà, nous allons nous arrêter pour aujourd'hui, arrêter notre balade dans la riche cité du Dora. Nous reprendrons notre visite dans quelques semaines. Et là, nous nous rendrons autour des murs de la ville, faubourg de l'ancien hôpital, rue des Tanneries, avenue de Verdun, avenue des Vignes. Nous irons aussi à Grandchamp et dans le quartier de la gare. Bien sûr, nous ferons une halte sur le site de l'ancien château et nous terminerons par le bourg de Voulon. Merci de nous avoir suivis pour cette nouvelle chronique des petites et grandes histoires de la Basse Marche, intitulée aujourd'hui « Visite historique du Dorat ». Pour les textes, nous avons utilisé l'ouvrage de Michael Toury, « Visite historique du Dorat et de l'ancienne commune de Voulon ». Pour les accompagnements musicaux, nous avons fait appel au groupe Maluzerne et à 7 pièces du compositeur Frédéric Laurent. Je vous rappelle que la réalisation technique de cette émission est assurée par Philippe Quiquempois et Gérard Schillinger. Je vous donne rendez-vous le week-end prochain pour une nouvelle chronique des petites et grandes histoires de la Basse Marche. À très bientôt donc, et très bonne semaine à vous tous.
Petites et grandes histoires de la Basse Marche.